Welcome to Nutrition Conversations, a podcast dedicated to exploring the latest research in nutrition and health in Canada. In each episode, we interview expert guests who break down complex ideas into practical insights. From public health nutrition and chronic disease prevention to the latest in nutrition science, we cover it all. Whether you're a health professional, wellness enthusiast, or just curious about how food shapes our health and well-being, join us as we explore the ever-evolving world of nutrition, one conversation at a time. The views expressed by the guests are their own and do not necessarily reflect those of CNS.
La modératrice de cet épisode est la directrice scientifique de la Société canadienne de nutrition, Dr. Shireen Panahi, qui s'entretiendra avec la professeure Stéphanie Chevalier dans l'épisode 5, saison 3 de Conversation en nutrition sur le rôle de la nutrition dans le vieillissement, un sujet au cœur des préoccupations liées au vieillissement en santé.
Bonjour aux auditeurs de Conversation en nutrition. Les personnes âgées représentent le groupe démographique qui croît le plus rapidement au Canada, avec 19 % de la population âgée de 60 ans et plus, soit environ 7 millions de personnes. L'exercice, l'activité physique et la nutrition sont des éléments essentiels d'un vieillissement en santé, contribuant au maintien de la santé musculosquelettique et la réduction du risque de sarcopénie. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de discuter avec Dr. Stéphanie Chevalier, diététiste, professeure agrégée à l'École de nutrition humaine de l'Université McGill et chercheuse à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. Son principal domaine d'expertise porte sur le métabolisme des protéines et le rôle des protéines alimentaires et d'autres nutriments dont la perte de masse et de fonction musculaire observée avec le vieillissement et dans certaines maladies métaboliques comme le cancer et le diabète. Plus récemment, elle s'est intéressée au lien entre la nutrition, la santé musculaire et la cognition chez les personnes âgées à travers des études observationnelles et des essais cliniques. Son programme de recherche est actuellement financé par les IRSC, la Société canadienne du cancer, le FRQS et la Fondation canadienne pour l'innovation. Elle est présidente de la Société canadienne de nutrition, membre du comité de formation et du comité directeur de l'étude longitudinale québécoise sur la nutrition et le vieillissement, NUAGE. Avec cela, je vous souhaite, Stéphanie, la bienvenue à l'épisode 5, saison 3 de Conversation en nutrition.
Bonjour, Shireen, et merci beaucoup de cette belle invitation.
Et merci, Stéphanie, pour votre présence avec nous. Avant de plonger dans vos travaux de recherche et votre rôle au sein de la communauté scientifique, j'aimerais qu'on revienne un peu sur votre parcours personnel. Chaque chercheur a une histoire unique qui l'a mené vers la science. Donc, pouvez-vous nous parler de votre parcours en sciences de la nutrition? Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce domaine et comment en êtes-vous venu à vous spécialiser dans la santé musculaire et le vieillissement? Beaucoup de questions, mais on est très, très intéressés.
Oui, merci pour la question. En fait, comme bien des chercheurs, quand on commence aux études de maîtrise, doctorat, on ne sait pas exactement dans quoi on s'embarque. Et puis, on prend les opportunités qui se présentent à nous. Et puis, celle qui s'est présentée à moi au doctorat, c'était une étude qui portait sur le vieillissement et en particulier sur le métabolisme de la vitamine A au cours du vieillissement. Et j'ai travaillé avec le modèle animal, le rat. Et donc, j'ai beaucoup appris lors de ces études. Mais ensuite, j'ai réalisé que je préférais m'orienter vers la recherche clinique chez l'humain. Et donc, pour mes études postdoctorales, j'ai eu la chance de trouver un superviseur de stage qui non seulement était gériatre, chercheur clinicien, mais aussi utilisait des méthodes, enfin encore aujourd'hui, toujours gériatre, il utilise des méthodes d'investigation avec des isotopes stables pour étudier le métabolisme des protéines au niveau des muscles et du corps en entier. Et J'ai voulu apprendre ces méthodes parce qu'elles ont un large spectre d'applications pour répondre à des questions assez poussées en recherche, mais sans être trop invasives en même temps. Alors, c'est ça qui m'a amenée à l'étude de la santé musculaire chez la personne âgée, qui est un enjeu très important, comme on va en discuter plus tard.
Super, merci d'avoir partagé votre parcours. Vous êtes non seulement un chercheur renommé dans le domaine de la nutrition, mais comme j'ai mentionné dans l'introduction, un membre du conseil d'administration de CNS. Donc, vous avez occupé plusieurs rôles au sein de la CNS et vous venez juste commencer votre mandat en tant que présidente. Vous êtes également sur plusieurs comités, comme le comité de formation. Donc, qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre ce rôle de leader et quel lien faites-vous avec votre travail en recherche et en nutrition clinique?
Bien, je fais partie de la société depuis que je suis étudiante de maîtrise. J'ai d'ailleurs fait ma première présentation scientifique étudiante au congrès de la CFBS qui intégrait à ce moment-là la société de nutrition qui était en deux parties avant que ça converge en une seule. C'est en 92, alors ça fait quand même un bon bout de temps. Donc, à travers toutes ces années, j'ai toujours apprécié le soutien de la communauté de recherche de la Société canadienne de nutrition et j'ai décidé de m'impliquer parce que c'est une société qui englobe tous les domaines de la nutrition, la recherche, la pratique, l'éducation. Elle joue un rôle d'intermédiaire entre l'industrie et la recherche et est aussi une voix crédible et experte auprès d'agences gouvernementales. Et quand on fait de la recherche sur un sujet précis, on est souvent, on est toujours très concentré sur notre sujet. Et donc, de m'impliquer davantage dans la société me permet d'élargir mes horizons puis d'apprécier toutes les sphères de la nutrition au sens large et participer à la communauté canadienne des chercheurs en nutrition.
Tout le monde a commencé pendant la maîtrise, le doctorat, comme bénévole, mais merci. Parlons maintenant d'un thème central de vos travaux, la sarcopénie. Peut-être on peut commencer avec quelques questions. La sarcopénie, c'est un terme qu'on entend de plus en plus, mais qui n'est pas toujours peut-être bien compris du grand public. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce terme, comment est-ce qu'on peut définir la terme sarcopénie et pourquoi est-ce que c'est un enjeu si important avec l'avancée en âge?
Oui, alors le mot sarcopénie, ça vient du grec, de la jonction de deux mots. Le premier, c'est sarx, qui signifie chair ou muscle, et pénia, qui signifie un manque de ou une perte de. Donc, sarcopénie en anglais, sarcopénie en français. Ça a originalement été défini par la perte de muscles, typiquement associée au vieillissement. Ça, c'était la définition des années 80 environ. Et cette définition a ensuite été élargie pour inclure la perte de la force musculaire. Et éventuellement, plus tard aussi, la fonction physique a été inclue dans la définition. Ce n'est plus le cas maintenant, là. Ça a été revisé, heureusement. À mon avis, c'est plus clair. Donc, la sarcopénie, telle qu'elle, aujourd'hui, est définie comme la perte de muscles et de force qui est associée au vieillissement. Et depuis à environ 5 ou 6 ans, la sarcopénie est officiellement reconnue comme une maladie. Donc, elle est inscrite au Code international des maladies. Votre seconde question, donc, pourquoi c'est un enjeu important? Ça l'est parce que la sarcopénie peut mener à une diminution de la fonction physique, jusqu'à des incapacités physiques, comme se lever d'une chaise, monter les escaliers, soulever des sacs d'épicerie, traverser la rue assez vite avant que la lumière change. Donc, ce sont des exemples qui peuvent sembler anodins, mais ce sont des conséquences qui mènent à un état de fragilité qui rend les personnes âgées moins autonomes, plus vulnérables, plus à risque de chute, de fractures osseuses et donc d'hospitalisation. Et une personne âgée va se remettre beaucoup plus difficilement et peut-être pas complètement d'une hospitalisation comparativement à une personne plus jeune. et va perdre assurément du muscle pendant la période d'alitement, généralement combinée à une alimentation assez déficiente lorsqu'on est hospitalisé. Donc, ce sont des conditions qui vont rendre la personne plus vulnérable et puis probablement, encore une fois, qu'elle ne retrouvera pas un niveau de base. Je veux souligner aussi que tout le monde, les hommes, les femmes, perdent du muscle et de la force musculaire graduellement à partir à peu près de l'âge de la cinquantaine, début cinquantaine. Même les athlètes, les gens très actifs, puis des athlètes de haut niveau, vont aussi en perdre. Mais pas tous vont se rendre à un stade sarcopénique, c'est-à-dire qui compromet leur fonction physique. Donc, physiologiquement, c'est normal d'en perdre un peu, mais ce qui devient pathologique, c'est lorsqu'on atteint un seuil qui compromet la fonction physique. Et ça, ça se voit chez environ 15 à 30% de la population.
Oui, et l'un des moyens les plus étudiés pour prévenir la sarcopénie, on sait que c'est l'alimentation et en particulier l'apport en protéines. Et vous avez publié plusieurs travaux sur l'apport en protéines chez les personnes âgées. Donc, qu'est-ce que nous avons appris sur la qualité, la répartition ou le moment de la consommation des protéines en lien avec la préservation de la masse musculaire?
Oui, alors ça, c'est une bien grande question. On va essayer de la prendre en morceaux. On va commencer. D'abord, ça ne faisait pas partie de la question, mais ce qui est le plus important, avant tout, c'est la quantité. Au-delà de la répartition du moment ou de la qualité, c'est la quantité des protéines qui est vraiment primordiale. Et les études qui ont originalement servi à déterminer les recommandations en protéines ont montré que les besoins en protéines des personnes âgées étaient comparables à ceux des jeunes. Par contre, ces études-là, originales d'il y a plus de 20 ans, incluaient un nombre très limité de participants âgés. Et aussi la méthode de mesure, qui est celle du bilan azoté, est un peu contestée là, pour toutes sortes de raisons, mais on s'entend tous pour dire que cette méthode va déterminer des besoins minimaux pour empêcher les pertes. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les besoins optimaux pour les personnes âgées pour préserver la masse musculaire. Donc, depuis 20 ans, il y a un débat dans la communauté. Et si on regarde l'ensemble des études métaboliques, des études observationnelles, des études d'intervention, toutes s'entendent bien pour démontrer que les personnes âgées ont des besoins un peu plus élevés que les adultes plus jeunes, soit de 1 à 1,2 grammes par kilo de poids corporel. Donc, si on transfère ça en termes plus simples, ça signifie environ 75 grammes par jour pour les femmes, puis environ 90 grammes par jour pour les hommes. Donc, le plus important, c'est d'atteindre ces niveaux. Ensuite, quant à la qualité, la question sur la qualité, il faut savoir que les études dont j'ai parlé sont toutes fondées sur une consommation d'un mélange de protéines de sources animales et végétales. On sait que les protéines animales sont de meilleure qualité parce qu'elles contiennent tous les acides aminés et elles sont plus digestibles aussi que les sources de protéines végétales. Donc, on entend souvent dire que les protéines végétales sont incomplètes, ce qui est faux en réalité. C'est plutôt que les protéines végétales vont avoir un ou deux acides aminés essentiels qui sont limitants en moindre quantité et donc ils limitent la synthèse des protéines musculaires. Mais en les combinant, les différentes sources de protéines végétales, on peut compléter, on peut arriver à obtenir des protéines complètes et donc une alimentation variée en protéines végétales peut tout aussi bien procurer la quantité de protéines dont on a besoin. Donc, l'enjeu chez les personnes âgées en ce moment, c'est qu'avec les recommandations de consommer davantage de protéines végétales, la grande question du jour, là, c'est est-ce qu'on doit consommer plus de protéines quand on consomme seulement des sources végétales? Est-ce qu'on doit combiner les sources de protéines végétales au même repas ou au cours de la journée? Donc ça, ce sont des questions d'actualité qui sont très étudiées là, par différents groupes, dont plusieurs groupes au Canada. Donc là, j'en viens à la question sur la répartition. Plusieurs chercheurs recommandent, en effet, ça fait quelques années qu'on entend ce message qu'il faut consommer 30 grammes de protéines par repas. c'est comme une espèce de message populaire là, qui circule beaucoup. Je dirais que si on divise en trois repas les quantités que j'ai mentionnées plus tôt, ça correspondrait à environ 25 grammes par repas pour les femmes, 30 grammes par repas pour les hommes. La raison derrière ce message, disons, c'est que c'est basé sur le fait que la synthèse protéique des muscles augmente avec l'apport alimentaire jusqu'à atteindre un plateau. Et que donc, consommer plus de protéines ne va pas nécessairement augmenter plus la synthèse. C'est vrai chez des adultes plus jeunes, mais chez des personnes âgées, en fait, ce qu'on a observé, c'est un phénomène de résistance anabolique. Donc, ça veut donc dire que les personnes âgées ont encore une fois besoin d'un peu plus de protéines que les plus jeunes pour atteindre ce seuil qui est, disons, le maximum à atteindre. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est que au niveau de la population nord-américaine, le profil de consommation des protéines n'est pas égal à chaque repas. Généralement, ce qu'on observe, c'est que les gens consomment peu de protéines au petit-déjeuner, qui est surtout composé là, de glucides, pain, céréales, gruau, etc. Vont avoir une consommation de protéines moyenne le midi et vont consommer la plupart des protéines au repas du soir. Parfois trop, même, en fait. Plus que les besoins. Alors, plusieurs études d'intervention et aussi des études observationnelles, dont celle de mon équipe, de mon laboratoire, ont en effet démontré qu'une meilleure répartition des protéines au repas est associée à une plus grande masse et à une plus grande force musculaire. Mais ce qu'on a trouvé, nous, dans nos études, c'est que cette répartition égale ne ralentissait pas nécessairement le déclin qu'on a observé sur 3 ans. Donc, la grande conclusion, c'est que le fait de commencer, si vous voulez, avec une réserve de protéines plus grande, même si on a un déclin qui est le même que chez les autres qui consomment leurs protéines pas nécessairement de façon bien répartie, va quand même terminer avec le temps, disons, à un niveau encore plus grand, ce qui signifie qu'on retarde le moment d'atteindre un seuil sarcopénique. Donc, c'est quand même avantageux. C'est un aspect qui demeure un peu controversé parce que d'autres études n'ont pas trouvé de différence entre la répartition au repas égale ou non égale. Dans ces études-là, probablement que c'était aussi expliqué par le fait que les participants consommaient déjà beaucoup de protéines. Donc, peut-être que justement, cette répartition a moins d'impact lorsque la consommation totale est assez grande. Et donc, pour répondre à la dernière partie de la question, qui est le moment de la consommation, en fait, il n'y a pas d'études, du moins à ma connaissance, qui ont déterminé si l'anabolisme protéique est plus élevé le matin versus le midi ou le soir, probablement pour des raisons techniques et logistiques. Mais si on suit la logique de la répartition dont je viens de parler, consommer ces protéines en 3 repas par jour serait certainement avantageux pour créer 3 occasions d'atteindre le seuil d'anabolisme protéique. Donc, c'est généralement ma grande recommandation, c'est de penser à intégrer des protéines à chaque repas pour atteindre ce seuil. Voilà.
Oui, et donc vous avez parlé de la quantité, la qualité, la répartition, le moment. Pouvez-vous donner quelques exemples des aliments qui sont des sources de protéines, juste pour nos auditeurs, parce que c'est plus sain. Par exemple, quand on dit qu'on a besoin de 5 grammes, ça veut dire quoi exactement?
Oui, ça c'est très important que les gens comprennent ça parce que le but c'est certainement pas de se mettre à calculer les grammes de protéines qu'on consomme par jour.
Oui,
c'est
exact.
Ce n'est pas une façon de vivre. On devrait pas calculer ce qu'on mange.
Oui.
Donc, pour donner une idée, les sources animales, on parle de volailles, poissons, viande, les œufs. Donc, si je m'arrête aux 3 premières, là, volaille, viande, poisson, ce sont les sources de protéines les plus denses. Ce que ça veut dire, c'est que une petite quantité, donc généralement 100 grammes, là, qui correspond peut-être à la paume de votre main en dimension, va vous donner de 25 à 30 grammes de protéines. Donc, si vous avez ça dans votre assiette, vous avez déjà la quantité voulue. Les œufs, évidemment, les produits laitiers, fromage, yogourt grec, je trouve toujours que c'est une bonne source parce que c'est beaucoup de protéines dans un petit volume. souvent les personnes âgées ont moins d'appétit, donc ça devient une option vraiment intéressante. Ce sont toutes des sources de protéines, mais qui en contiennent quand même un peu moins que dans les trois premières que j'ai nommées. Ensuite, les sources végétales vont se trouver surtout dans les légumineuses, donc les pois, les fèves, les lentilles, etc., les noix et les graines, et aussi dans certaines céréales, surtout à grains entiers. Puis je pense entre autres au quinoa, qui est une source assez riche en protéines. Et donc, quand on mange de ces sources-là pour arriver à la quantité voulue, ben généralement, il faut combiner des sources. Parce que manger suffisamment de lentilles pour avoir 30 grammes de protéines veut dire qu'il faut manger à peu près une tasse et demie à deux tasses de lentilles, ce qu'on fait rarement en un repas. Donc, il faut combiner un petit peu les sources à ce moment-là pour arriver à la bonne quantité.
Okay, super, merci pour les exemples. On a parlé un peu de ça, mais la perte musculaire n'est pas seulement liée au vieillissement, mais elle est aussi influencée par certaines maladies chroniques. Peut-être on peut expliquer un peu plus comment la sarcopénie interagit avec des conditions comme le cancer, la fragilité, comme vous avez mentionné, ou le diabète.
Oui, alors ce sont des conditions qui sont vues souvent en même temps parce que ce sont des maladies qu'on voit plus fréquemment chez les personnes âgées aussi. Je dirais que ce sont les maladies qui interfèrent plus avec le métabolisme protéique au niveau du muscle que la sarcopénie qui interagit avec ces conditions. Mais enfin, donc, le diabète mal contrôlé, les maladies rénales, les maladies pulmonaires aussi. Et encore plus le cancer et ses traitements, les traitements du cancer, là, surtout la chimiothérapie, vont mener à une perte de muscle, mais qu'on va plutôt qualifier ou nommer de myopénie, pour la différencier de la sarcopénie qui est vraiment la condition reliée à l'avancement de l'âge. La myopénie, on tente de dissocier les termes pour justement l'associer à des conditions pathologiques. Donc, toutes ces conditions de maladies chroniques sont des conditions qui vont appeler à des besoins plus grands en protéines parce que va s'installer une utilisation de ces protéines-là pour soit, ce qu'on dit en anglais, monter ou créer une réaction d'inflammation suite à soit une chirurgie, par exemple, ou un traitement du cancer. Les protéines du muscle vont être dégradées en acides aminés. Ces acides aminés-là vont servir à créer d'autres protéines d'inflammation, d'autres protéines de phase aiguë synthétisées par le foie, et des protéines du système immunitaire aussi qui vont être impliquées soit la réparation des cicatrices, la récupération après la chirurgie, etc. Donc, ce sont toutes des conditions qu'on appelle plutôt cataboliques, qui vont mener à un état de catabolisme net et aussi qui bloque ou qui limite en même temps la synthèse des protéines du muscle. C'est comme si le corps, en fait, savait qu'il y a des besoins plus urgents avec ces protéines qui doivent être utilisées à d'autres fonctions que celles de faire du muscle à un moment précis. Et donc, à ce moment-là, les patients qui souffrent de ces maladies doivent consommer plus de protéines pour rencontrer leurs besoins plus élevés.
Oui, et d'un point de vue clinique, quels sont les signes précoces de perte musculaire ou de sarcopénie que les gens et même les professionnels de santé négligent souvent?
Alors ça, c'est le grand problème, parce qu'il n'y en a pas des signes précoces.
Okay.
Et on n'a pas non plus de marqueur sanguin qu'on pourrait mesurer, une protéine dans le sang ou tout autre marqueur qui pourrait nous indiquer justement des débuts précoces. Les gens ne sentent pas quand ils perdent du muscle. C'est pas quelque chose que l'on perçoit. On s'en rend pas compte. Les gens vont davantage commencer, les personnes âgées vont davantage commencer à se plaindre un peu qu'ils ont moins de force qu'avant, qu'ils ont de la difficulté à ouvrir les peaux, par exemple. Mais ça demeure, encore une fois, des symptômes relativement anodins. Ce qui fait en sorte que la sarcopénie est assez peu évaluée en clinique, à moins qu'elle soit très avancée déjà et qu'elle soit visible à l'œil clinique lors de l'examen physique. Par contre, la mesure de la force musculaire, c'est une mesure qui est assez simple à faire à l'aide d'un dynamomètre, qui est un appareil qu'on tient dans notre main puis qu'on presse, qui mesure la force de préhension. On peut aussi mesurer la force avec des tests simples, comme le lever de chaise. Donc, ce seraient des tests que les cliniciens pourraient facilement intégrer à leur pratique. La mesure des muscles comme telle est beaucoup plus complexe, compliquée. Elle requiert des instruments assez sophistiqués comme le DEXA, qui est l'appareil utilisé pour mesurer la densité osseuse. On peut en même temps mesurer la composition corporelle et déterminer la quantité de masse maigre. Donc, c'est pas une mesure directe du muscle, c'est la masse maigre qui est mesurée, qui englobe les muscles. Et on a aussi évidemment des techniques d'imagerie comme la résonance magnétique ou les CT scans qui sont très précises mais très peu accessibles. Alors, comment faire pour des cliniciens ou même les gens eux-mêmes à déterminer s'ils ont de la sarcopénie? Donc, il existe un questionnaire de dépistage qui s'appelle le SARC-F qui inclut 10 questions qui concerne surtout les habiletés ou les capacités physiques. Ça demeure du dépistage, ce n'est pas un diagnostic de la sarcopénie, mais si on a des éléments qui nous guident vers un dépistage, on peut ensuite procéder à un diagnostic plus précis. Puis, je terminerai là-dessus avec, je pense, une question que tous les cliniciens devraient se poser ou devraient poser à leurs patients, c'est « Est-ce que vous avez perdu du poids? » Parce que si quelqu'un, une personne âgée, perd du poids, de façon intentionnelle ou non, généralement, enfin presque toujours, ça s'accompagne d'une perte de muscle. C'est à peu près impossible qu'une personne perde seulement du gras et pas du muscle, à moins qu'elle fasse énormément d'exercices physiques. Donc, ça c'est une question toute simple, questionner sur la perte de poids, et ça devrait allumer une lumière à investiguer plus loin la perte de muscle.
Oui, donc les outils sont très importants.
Oui, exact.
Et parlant de solutions, on a parlé beaucoup de nutrition. Plusieurs stratégies ont montré leur efficacité. Si vous pouviez donner 3 recommandations fondées sur des données probantes pour soutenir la santé musculaire chez les aînés grâce à la nutrition, lesquelles seraient-elles?
Oui, alors, 3 points majeurs, je dirais. Ben d'abord, on en a déjà parlé, ce qui est bien, savoir reconnaître les différentes sources de protéines. Parce que, justement, comme vous l'avez dit plus tôt, souvent les gens ne savent pas trop à quoi on réfère. Donc, je les ai mentionnés plus tôt, les sources animales, les sources végétales. Comme deuxième point, message très simple, s'assurer d'en inclure à chaque repas. Donc, moi, ce que je dis à mes participants de recherche, qui sont des personnes âgées, regardez votre assiette, votre composition du repas, et demandez-vous quelles sont mes sources de protéines, est-ce que j'en ai suffisamment à l'œil, là, grosso modo. Encore une fois, on devrait pas compter. Et puis, s'il en manque, ben pensez à compléter, soit justement avec un dessert qui va être plus riche en protéines, comme un yogourt grec, un pudding au riz préparé avec du lait, etc. Combiner ces sources. Donc, si on se dit qu'on a une soupe, par exemple, qui contient des haricots, des fèves, c'est bien, mais c'est pas assez. Alors, pensez à compléter avec un morceau de fromage, par exemple, ou d'autres sources, ou ajouter juste une petite quantité de poulet dans sa soupe qui va venir compléter tout ça. Et puis, ma troisième recommandation, je suis obligée de dévier de la nutrition pour parler d'exercice physique. Parce que c'est impossible de préserver la masse musculaire en étant inactif. C'est sûr, encore une fois, que si on est inactif, on va perdre probablement plus rapidement de muscles au cours de l'âge, avec l'avancement de l'âge. Et que si on veut regagner de la masse perdue, on n'a pas d'autre choix que de faire de l'exercice physique. Et là, je veux vraiment clairement souligner exercice physique et non pas activité physique. Alors, c'est une bonne chose d'être actif physiquement, de marcher beaucoup, de s'occuper, ça a un ensemble de bienfaits, mais pour regagner de la masse musculaire, il faut absolument faire un exercice physique de type résistance, donc qui implique des poids, de la levée de poids ou de travailler contre un poids en résistance, ce qui signifie pas nécessairement devoir aller au gym pour lever des gros poids, mais on peut très bien avoir des exercices maison, qu'on peut travailler à la maison en soulevant des plus petits poids ou en faisant tout simplement des exercices de style push-up et d'autres, mais il faut toujours penser que la nutrition est là pour soutenir tout le processus de maintien de la masse musculaire, mais pour regagner de la masse, ça prend absolument de l'exercice et la nutrition combinée. Les deux jouent un rôle très important ensemble. Donc l'exercice va être le stimulant, la nutrition va venir procurer tous les substrats nécessaires pour construire le muscle.
Oui, merci. Ça, les bonnes recommandations. Et pour l'exercice et l'activité physique, nous avons parlé avec Dr. Laura Giangregorio dans l'épisode 1 de saison 3 pour les gens qui sont intéressés d'apprendre plus sur l'activité physique et le vieillissement. Mais pour cet épisode, on parle plus de l'alimentation et on sait qu'on a parlé beaucoup de protéines, mais ce sont pas les seuls nutriments importants. Donc, quel rôle jouent les autres éléments nutritionnels, par exemple les oméga 3, la vitamine D? Est-ce qu'il y a les autres, par exemple, dans le maintien ou l'amélioration de la fonction musculaire?
Ce sont surtout ceux que vous venez de mentionner. Il y a la leucine, là, qui est un acide aminé. Donc, ça fait partie des protéines. C'est un acide aminé essentiel qui a un rôle particulier, qui est celui de stimuler la synthèse. Donc, au-delà d'être un substrat, c'est un acide aminé qui stimule la synthèse. La leucine, c'est un acide aminé qu'on trouve à peu près dans toutes les... Enfin, qu'on trouve dans toutes les sources de protéines. Donc, c'est facile de rencontrer ses besoins si on consomme suffisamment de protéines. Mais encore là, les personnes âgées ont des besoins en leucine un peu plus élevés que les plus jeunes et souvent ne consomment pas suffisamment de protéines. Donc, l'apport en leucine peut être un enjeu à surveiller chez les personnes âgées, alors qu'il n'est pas vraiment un enjeu là, chez les plus jeunes. Les acides gras oméga-3, ça c'est vraiment intéressant parce que, évidemment, ils sont bien connus pour leur rôle anti-inflammatoire, mais ils pourraient aussi avoir un rôle anabolique, donc de stimuler, de participer à la synthèse protéique, et aussi un rôle pour améliorer la qualité des muscles. Et ceci en limitant l'infiltration de gras dans les muscles. Alors, avec l'âge, on voit souvent cette infiltration de gras dans les muscles. On le voit là quand on a des images en résonance magnétique, par exemple. Pensez à un steak de bœuf bien gras. Donc, le gras qui se trouve pas juste autour du steak, mais même à l'intérieur, c'est de ça dont on parle quand on parle d'infiltration. Donc, cet état qui s'appelle, en termes scientifiques, la myostéatose, cet état diminue la force musculaire et va aussi induire une résistance à l'insuline, donc perturbe l'état métabolique de façon générale. Donc, c'est vraiment pas souhaitable. Alors, c'est été démontré que les acides gras en supplément, donc qui apportait un niveau quand même assez grand d'oméga-3, avait pour effet de réduire cette infiltration de gras dans les muscles. Donc, en ce moment, c'est une bonne idée donc de consommer beaucoup d'acides gras par la diète, donc dans des sources comme les poissons gras, qui sont les meilleures sources, saumon, sardines, hareng. Mais encore une fois, la quantité d'oméga-3 qui a démontré les effets que j'ai mentionnés venait de suppléments, donc de ces sources-là d'huile de poisson. Et puis finalement, la vitamine D aussi est impliquée. Donc la vitamine D, c'est en fait une hormone. Elle a des fonctions bien au-delà de la santé osseuse. Et effectivement, elle joue aussi un rôle dans la santé du muscle. Toutes les personnes âgées, en fait, devraient en principe se faire prescrire des suppléments de vitamine D, là. En fait, c'est même passé l'âge de 55 ans. Et donc, les suppléments de vitamine D qui sont recommandés sont suffisants pour assurer la santé du muscle. Donc, d'en prendre au-delà de ça, parce qu'il y a certaines personnes qui ne jurent que par des mégadoses de vitamine D, ça n'a pas été démontré qu'il y avait des avantages à prendre des mégadoses. Donc, la quantité recommandée est suffisante en ce qui concerne la santé du muscle.
Oui, et vous avez parlé de oméga-3 dans les aliments, par exemple, mais pour le leucine, est-ce qu'il y a les sources ou est-ce que vous recommandez un supplément, par exemple?
Non, pas vraiment, parce que justement, la leucine se trouve en plus grande quantité dans les sources de protéines animales, encore une fois, en particulier dans la poudre de lactosérum qui est la source de beaucoup de suppléments, entre autres, que prennent des athlètes, des gens qui font du bodybuilding, en bon français. Mais c'est pas nécessairement une solution à adopter, je dirais, de façon courante et à long terme. À mon avis, des suppléments de protéines riches en leucine, par exemple, pour des personnes âgées, peuvent être une bonne option dans des courtes périodes de temps, si justement la personne, pour quelque raison que ce soit, soit une hospitalisation, une infection, un court épisode de fièvre, n'a pas envie de manger, l'appétit est très diminué. Je pense que là, des suppléments peuvent avoir un rôle à jouer pour venir compléter les besoins au cours d'une journée. Mais si on parle d'alimentation à long terme, on devrait pouvoir s'alimenter avec les aliments, obtenir nos protéines, la leucine, à partir des aliments et pas nécessairement intégrer des suppléments.
OK, super, merci. Donc, vous êtes au cœur d'un domaine en plein d'évolution. Parmi les nouvelles pistes explorées en recherche, certaines sont particulièrement prometteuses. Donc, quels sont les axes de recherche qui vous enthousiasment le plus actuellement dans le domaine de la santé musculaire et de la nutrition?
Alors, il y a celle que j'ai mentionnée au début qui, à savoir est-ce que les besoins sont augmentés avec une alimentation à base de plantes, parce que c'est vraiment des recommandations, non seulement au niveau national au Canada, mais partout dans le monde, la grande recommandation, c'est de se tourner graduellement vers une alimentation qui est plus à base de plantes. Et il y a un ensemble de questions qui demeurent sans réponse à ce jour. Et encore une fois, en particulièrement pour ce sous-groupe de la population qui est les personnes âgées, est-ce que ces personnes sont capables d'atteindre leurs besoins en protéines et en acides aminés avec une telle alimentation? Ça, je pense que c'est vraiment très d'actualité. Et l'autre axe qui m'intéresse depuis les toutes dernières années, c'est vraiment le lien entre le déclin musculaire ou physique, de la fonction physique, et le déclin cognitif avec l'âge. Donc, on sait que ce sont deux phénomènes qui s'observent en parallèle. On sait très bien, là, c'est documenté depuis plusieurs années. Mais depuis quelques années, on a des mécanismes potentiels qui nous indiquent que peut-être que ces deux fonctions, en fait, pourraient être reliées. Par exemple, le muscle sécrète des molécules qui s'appellent des myokines et il y en a tout un ensemble. Et qui ont des rôles au niveau du cerveau. Carrément, ce sont des molécules qui sont capables d'aller parler au cerveau, si vous voulez, qui sont capables de signaler le cerveau. Et donc, pourraient avoir des rôles à jouer dans la cognition. Donc, c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup parce qu'on pourrait penser que si on a des preuves que les deux sont reliés, on pourrait penser à des stratégies de prévention des deux déclins, physiques et cognitifs, qui pourraient peut-être s'implémenter beaucoup plus tôt que tard pour préserver ou du moins atténuer les déclins des deux fonctions avec l'âge.
Super, merci. Et pour conclure, j'aimerais vous inviter à vous adresser à la relève, les jeunes chercheurs et les professionnels de demain. Donc, pour les chercheurs et cliniciens de la relève, quel message ou conseil est-ce que vous aimez transmettre pour mieux prévenir la sarcopénie et favoriser un vieillissement en santé?
Oui. Alors, on entend souvent dire, en fait, c'est un message qui est qui est très, très populaire, que la population mange trop de protéines, en général, et que le manque de protéines, c'est vraiment pas un enjeu au niveau populationnel. C'est vrai pour la moyenne des jeunes adultes, mais ce n'est pas du tout le cas pour les personnes âgées. On a des données québécoises de l'étude Nuage, on a des données canadiennes qui nous montrent que la moitié des personnes de 65 ans et plus consomment moins que les besoins de 1 gramme par kilo par jour. La moitié, c'est vraiment beaucoup. Alors, notre rôle comme chercheur, comme clinicien, puis donc je m'adresse à nous tous, c'est de savoir identifier ces personnes qui consomment moins. C'est vraiment ceux-là qu'il faut étudier davantage. Donc, il faut les inclure davantage dans nos études de recherche, parce que souvent, quand on recrute des volontaires de recherche, ce sont souvent des gens qui sont déjà préoccupés par la santé et la nutrition et qui consomment bien assez de protéines. C'est peut-être ceux-là qui nous intéressent un peu moins, mais plutôt les gens qui en consomment moins qu'on devrait étudier un peu plus. Puis mon autre message, peut-être plus aux jeunes chercheurs, ce serait de continuer de développer ou d'améliorer les méthodes de mesure. Les méthodes de mesure des apports alimentaires avec l'intégration de nouvelles technologies, de nouvelles façons de faire, parce que ça demeure très difficile, un enjeu de pouvoir mesurer de façon relativement précise ce que les gens consomment. Et aussi, de continuer aussi de développer des mesures plus précises, mais surtout accessibles pour mesurer les muscles, la composition corporelle, parce que la perte de muscles, avec le temps, c'est un processus très lent. J'ai dit qu'on en perdait à partir de l'âge de 50 ans, mais c'est un peu moins que 1% de perte par année. Donc, c'est très long avant de pouvoir voir quelque chose, de mesurer une perte notable. Donc, ça prend des outils très précis. Et puis, c'est pas une étude d'intervention de 3 mois ou 6 mois même qui va démontrer des grands changements, parce que même de regagner, ça prend aussi du temps. Donc, ça nous prend des outils précis. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de recherches qui pourraient être faites en ce sens-là.
Oui, ce sont des points importants et des bons messages pour tout le monde. Donc, merci infiniment, Stéphanie, pour cette conversation riche et inspirante. Vous avez su rendre accessible des concepts complexes tout en soulignant l'importance de la nutrition dans le maintien de la santé musculaire et du vieillissement en santé. Et votre passion pour la recherche, votre engagement envers la communauté scientifique, ainsi que vos conseils pratiques sont précieux pour nos auditeurs, qu'ils soient professionnels de la santé, chercheurs ou simplement curieux d'en apprendre davantage. Donc, je vous remercie pour votre temps et pour le partage de votre expertise. Et moi, j'ai hâte de poursuivre notre collaboration au sein de la CNS.
Bien, merci beaucoup pour vos bonnes questions, je dirais.
Merci, Stéphanie.
Au revoir.
Thank you for tuning in to Nutrition Conversations. We hope that you found today's discussion informative and inspiring. If you're interested in hearing more about the latest research in nutrition and health, be sure to check out our website at cns-scn.ca/podcast for upcoming podcasts. Remember, our podcasts are always available on the Spotify app, so you can easily listen to us on the go. Simply search for the Nutrition Conversations podcast on Spotify and you'll find all our episodes in one place. Don't forget to subscribe to the podcast so you never miss an episode.